France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. L'homme qui a révélé au monde les crimes du régime syrien de Bachar al-Assad parle à visage découvert. César a pendant des années envoyé à l'étranger les photos des dizaines de milliers de victimes. Il vit en France depuis 10 ans et s'exprime enfin sans crainte. À suivre encore, la route, jour de départ en vacances. Pourquoi de plus en plus de communes passent-elles aux 30 km/h? Nous en parlons avec nos invités à partir de 13h30 et avec vous 01 45 24 7000. Et nous verrons qu'à Pau, les conducteurs de bus de l'agglomération seront désormais testés au cannabis. Une grève illimitée chez Lidl, c'est du jamais vu. Les syndicats demandent des hausses de salaire.
De plus en plus de charges, de moins en moins de récompenses, de primes, d'intéressements, ça fait beaucoup trop.
Explication à suivre. L'intelligence artificielle à l'école, faut-il l'utiliser et si oui, comment? Elisabeth Borne promet des consignes pour le printemps, nous l'écouterons. Et puis François Bayrou, lui, veut un débat. Bonjour Julien Nenni.
Bonjour.
Un débat sur ce que c'est qu'être français.
Oui, le Premier ministre, mais aussi son ministre de la Justice, Gérald Darmanin, coup sur coup, lance des propositions sur l'immigration. Grand débat pour l'un, donc référendum pour l'autre. Voilà qui rappelle le grand débat sur l'identité nationale de Nicolas Sarkozy en 2009.
A tout de suite, vous parlez de Nicolas Sarkozy, il est en procès en ce moment. Procès pour le présumé financement libyen de sa campagne présidentielle. Les coulisses de ce procès, c'est un nouveau rendez-vous qu'on inaugure dans quelques minutes avec Charlotte Piret. 13h50, c'est la France. La transjurassienne, épreuve sportive emblématique du Jura. Elle est maintenue, mais elle est rabotée cette année. Ce sera avec Jean-Baptiste René du journal L'Équipe. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson, la comédienne Rachel Arditi et un tube, Can't Take My Eyes Off You. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
César n'existe pas. Voilà ce qu'a toujours affirmé le dictateur syrien Bachar al-Assad. César, c'est le surnom de ce militaire qui, pendant des années, a été chargé par le régime de photographier les corps des Syriens suppliciés, hommes, vieillards, femmes et enfants. 53 000 photos qu'il a, au risque de sa vie, exfiltrées vers l'étranger et qui permettent aujourd'hui de documenter les crimes de Bachar al-Assad, l'ex-maître de Damas. Eh bien, ce César, ce héros syrien, existe bel et bien et on connaît depuis hier son nom et son visage. Bonjour Étienne Monin.
Bonjour.
Il vit en France, il le raconte dans une interview accordée face caméra à la chaîne de télévision Al Jazeera.
Et pendant quelques secondes, cette caméra s'attarde sur les mains de ce Syrien avant de monter sur son visage, comme pour rappeler la décennie de clandestinité dans laquelle il a dû se plonger pour échapper aux représailles du régime, parce que les révélations de Farid El-Mazan, c'est son vrai nom, sont un élément clé dans l'isolement et dans la chute du régime de Bachar al-Assad. La publication des photos dans la presse à l'époque est un choc, elle a lieu début 2014. Elle ne révèle pas l'existence de la torture, elle confirme qu'elle est utilisée à l'échelle institutionnelle. Elle démontre à la face du monde la sauvagerie du régime, validée par le travail de plusieurs procureurs et par l'ONG Human Rights Watch. L'homme qui révèle ses secrets enfouis des services de sécurité syriens est donc un adjudant-chef de la police militaire. Son travail consiste en fait à classer ses photos. Il les voit défiler devant lui. En sous-main, il les copie grâce à son beau-frère qui est engagé dans l'opposition. Il parvient à s'exfiltrer avec ce matériau il y a un peu plus de 10 ans. Il a documenté au total la mort de 6700 personnes en détention, parmi lesquelles plusieurs dizaines d'enfants.
Merci Étienne Monin. Alors cet homme, Farid al-Mazan, puisqu'on connaît désormais son nom, avait déjà parlé à une journaliste, mais sous le sceau de l'anonymat avec ce surnom de César. C'est la journaliste Garance Lequen qui l'avait raconté dès 2015 et elle nous apprend aujourd'hui qu'il a vécu son exil en France depuis 10 ans dans la crainte.
Pour moi, César, c'est la peur. C'est quelqu'un qui a vécu dans la peur depuis 2011, depuis le moment où il a décidé de copier ses photos pour les montrer aux familles. Depuis ce moment-là, même en arrivant en France en 2014, il a peur. Et cette peur, elle est, on ne peut pas la comprendre, même en étant à Damas ici. Enfin, c'est quelque chose d'inimaginable, cette peur, vraiment inimaginable. Donc, pour moi, César, c'est la peur. Et en fait, il était prisonnier de ce dossier César. Il en était prisonnier parce qu'il ne pouvait pas apparaître au grand jour, même si, par exemple, il aurait eu besoin d'être suivi par un psychologue. Et il est aussi une victime, César. Il est un héros pour beaucoup de monde, Et il fait partie des gens qui ont permis la chute de ce régime, mais il est aussi une victime, parce qu'il a vu ces photos, parce que c'est quelque chose qui vous hante.
La journaliste Garance Le Ken, que vous avez pu joindre ce matin à Damas, Étienne Monin, son enquête « Opération César au cœur de la machine de mort syrienne » parue aux éditions Stock, c'était en 2015. Bachar al-Assad pourra-t-il être jugé un jour par la Cour pénale internationale, lui qui a fui en Russie? Rien de sûr, son pays n'a pas signé le traité qui régit la Cour et Moscou s'y opposerait. Mais un autre pays veut aujourd'hui la peau de la CPI créée en 2002. Ce sont les États-Unis de Donald Trump. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant à Bruxelles. Donald Trump a signé hier un décret prévoyant des sanctions contre la Cour pénale internationale.
Oui, contre les dirigeants, les employés et les agents de la CPI, interdits d'entrer sur le sol américain, mais aussi, précise le décret, contre quiconque pourrait être considéré comme ayant apporté son aide aux travaux de la CPI. Le texte évoque un gel des avoirs, ce qui fait craindre des conséquences collatérales pour des entreprises, fournisseurs ou prestataires de la cour informatique ou autre. De quoi paralyser l'action de la CPI, s'inquiète l'eurodéputée socialiste Chloé Ridel, qui effectuait justement une mission parlementaire à la CPI il y a quelques mois. Le sujet lui tient particulièrement à cœur.
C'est une intimidation contre une cour qui est l'héritière du tribunal de Nuremberg, qui lutte contre l'impunité de ceux qui commettent les pires crimes, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes d'agression, génocide. C'est inacceptable, inacceptable que les États-Unis la sanctionnent parce que la Cour fait respecter le droit international.
Condamnation également du président du Conseil européen, Antonio Costa, tôt ce matin, contre ces sanctions qui minent, selon lui, l'ensemble du système de justice internationale, juste après que la Cour pénale internationale s'est engagée dans un communiqué à continuer de rendre justice et d'apporter, écrit-elle, de l'espoir à des millions de victimes innocentes d'atrocités dans le monde.
Merci Fabien Cazot. Et puis cette nouvelle alerte de l'ONU sur la situation en Haïti. Les violences sexuelles contre les enfants y ont explosé l'an dernier, multipliées par 10. Les groupes armés infligent des horreurs inimaginables aux enfants. Voilà ce que dénonce la porte-parole de l'UNICEF.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
Châteaudun, Monin, Portet puis Morin, sans deux mois, trois accidents de car ont fait sur nos routes quatre morts, avec à chaque fois un conducteur contrôlé positif aux stupéfiants, que ce soit de la cocaïne ou du cannabis. Alors depuis le début de la semaine, le gouvernement a lancé une vague de contrôle, 9000 réalisés, une cinquantaine de cas positifs à la drogue ou à l'alcool à ce stade. Mais certaines entreprises de transport veulent systématiser ces contrôles. C'est le cas à Pau du groupe Idelis qui gère les transports en commun de l'agglomération. Flore Catala.
Jusqu'ici, Idelis ne testait ses conducteurs que pour l'alcoolémie.
On faisait environ 10 campagnes par an.
Jean-Bernard Feltman, le directeur du groupe.
Sur l'essentiel de nos conducteurs, 280 conducteurs, des contrôles inopinés, donc sur une à deux journées par mois, donc sans prévenir le personnel.
Mêlés de drames successifs et les contrôles menés par les forces de l'ordre en France ces derniers jours avec 49 tests revenus positifs, ont décidé l'entreprise à sauter le pas, explique Virginie Mouret, la directrice d'exploitation.
C'est un fait sociétal et comment lui lutter contre. Les contrôles sont une des choses essentielles, on va dire, notre règlement intérieur a besoin d'évoluer pour mettre en place aussi des contrôles salivaires.
Ces dépistages aux stupéfiants seront mis en place dès cette année. Ils se feront sur le même modèle que ceux pour l'alcoolémie, mais impossible de les rendre systématiques, admet Jean-Bernard Feltman.
Aujourd'hui, l'organisation ne s'y prête pas. Ça serait une question de moyens et de ressources. Pour l'instant, on n'est pas sur cette orientation. Sachant que sur les trois dernières journées où, effectivement, il y a eu des contrôles opéré sur l'agglomération paloise. On a 5 de nos conducteurs de bus qui ont été contrôlés, tous négatifs.
Les tests salivaires seront lancés à Idelis dès que l'entreprise aura tous les accords pour modifier son règlement intérieur.
Reportage ici Béarn. Sur les routes, journée classée orange dans le sud-est. Les vacances débutent pour la zone B. En Savoie, la route nationale 90 qui mène aux stations de ski de la Tarentaise rouvrira entièrement à partir de 16h. Une alerte orange la nuit prochaine au verglas dans 4 des départements, Ardèche, Aveyron, Haute-Loire et Lozère. Prévision complète dans une vingtaine de minutes. Les vacances, période propice pour les cambriolages de logements. Leur nombre est resté stable l'an dernier, autour de 220 000. Mais dans de nombreux départements, Haute-Vienne, Finistère, Haute-Saône, entre autres. Les forces de l'ordre ont été alertées ces derniers jours sur l'utilisation d'une nouvelle technique. Bonjour Rosalia MacArthur.
Bonjour.
La technique de la feuille blanche, de quoi s'agit-il ?
Ce serait, selon la police, un stratagème pour signaler les logements inoccupés. Le principe est simple, on glisse une feuille blanche dans une boîte aux lettres en la laissant légèrement dépasser. Si elle est encore là les jours suivants, cela veut dire que les habitants sont absents et que la voie est libre pour les cambrioleurs. Le phénomène est apparu ces dernières semaines. La police a reçu de nombreux signalements un peu partout en France, comme en Haute-Vienne, où le commissaire général Yannick Salabert appelle à la prudence.
C'est du simple repérage. C'est un peu similaire à ce que nous, on connaissait aussi par le repérage par des pierres dans les villas qui pouvaient être cambriolées. Les cibles étaient repérées en mettant des tas de cailloux. Là, c'est une nouvelle mode plutôt urbaine.
Mais attention à ne pas paniquer pour rien, car la Poste aussi distribue des feuilles blanches pliées à Messurèvre, près de Cholet en Anjou. Les habitants ont pu faire la confusion. Alain Morinière, adjoint au maire, explique comment faire la différence.
La feuille blanche de la Poste est glissée à l'intérieur de la boîte. Elle peut renfermer de la publicité ou de la documentation.
Alors si vous partez en vacances, faites surveiller votre boîte aux lettres, soit par vos voisins, soit par la police, en vous inscrivant en ligne à l'opération Tranquillité Vacances.
Rosalia MacArthur pour ses explications. À Bobigny, en Seine-Saint-Denis, un surveillant est soupçonné d'avoir participé au passage à tabac d'un collégien, un jeune garçon de 15 ans qui a été roué de coups mardi devant son établissement. Bonjour Delphine Evenou.
Bonjour.
Au total, ce sont 3 surveillants de ce collège qui ont été suspendus.
Oui, en attendant des suites disciplinaires, précise le rectorat de l'Académie de Créteil qui annonce l'ouverture d'une enquête administrative. Des inspecteurs vont interroger les élèves et les personnels sur des faits en amont de l'agression et des violences de la part de surveillants sur des élèves. C'est à clarifier car il n'y a pas eu de remontée jusqu'au rectorat ni jusqu'à la direction du collège. Un tag a aussi été retrouvé mardi à l'intérieur de l'établissement, tag injurieux envers le surveillant suspendu et qui est en cours de déferment ce midi. C'est ce qui aurait provoqué l'agression. Cet homme de 22 ans, arrivé au collège à la rentrée de septembre, s'est présenté au commissariat de Bobigny mercredi avec son frère de 17 ans qui a déclaré être l'auteur des coups. Ce jeune homme n'est pas un élève du collège. Tous deux ont passé 2 jours en garde à vue. Ils doivent être présentés à un juge d'instruction cet après-midi dans le cadre de l'enquête ouverte pour violences aggravées. L'adolescent de 15 ans, agressé et placé un temps dans un coma artificiel, est lui sorti de l'hôpital mercredi soir. Une cellule d'écoute est mise en place au collège et des équipes mobiles de sécurité académique sont sur place.
Delphine Evenou, c'est une première dans un groupe qui n'est pas habitué à la contestation. Une grève illimitée donc chez Lidl France, 1500 magasins dans le pays, une part de marché de 8%, mais des salaires insuffisants pour l'intersyndicale qui lance ce mouvement. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
Et qui s'oppose aussi à un projet d'ouverture généralisée le dimanche.
Et ce projet de devoir travailler le dimanche matin, c'est la goutte d'eau qui fait déborder un vase déjà plein.
De plus en plus de charges, de moins en moins de récompenses, de primes, d'intéressements, ça fait beaucoup trop.
Trop pour Marie-Laure Bertrand, caissière depuis 16 ans dans un magasin Lidl au Pays Basque et qui a vu les conditions de travail se dégrader. Sentiment partagé par de nombreux salariés à qui l'enseigne demande d'être multitâche. Le mouvement est d'ailleurs porté par 5 syndicats dans l'ensemble de l'Hexagone. William Bernard est délégué CFTC dans les Bouches-du-Rhône.
C'est l'usure de nos salariés. C'est-à-dire qu'ils sont usés moralement, mais ils sont aussi usés physiquement. Vraiment, ce que l'on met en avant, c'est qu'il y ait des négociations sur les conditions de travail ainsi que les charges de travail.
Alors, les négociations annuelles ont bien commencé. Une réunion a même eu lieu avant-hier. La direction propose 1,2% d'augmentation. Les syndicats réclament 2%. Manuela Sherman, représentante CGT de Lidl en Moselle.
On nous propose une prime de 100 euros brut. On a juste envie de rigoler, quoi, en fait. On nous en demande toujours plus et au final, on n'a pas cette reconnaissance qu'on mérite. Et cette reconnaissance, c'est déjà au niveau du salaire.
Cette grève illimitée pourrait se traduire par des files d'attente plus longues aux caisses et à terme par des problèmes d'approvisionnement dans certains magasins.
Merci Agnès Soubiran avec le concours de nos confrères d'ici. La France continue d'importer davantage qu'elle n'exporte. Le déficit commercial s'est élevé l'an dernier à 81 milliards d'euros, mais il est moins prononcé qu'en 2023. Les parfums, les cosmétiques, les produits chimiques et l'électricité ont affiché, eux, des excédents records. Dans cette balance commerciale, on tient compte évidemment des produits agricoles. Avec cette nouvelle donne, les résultats aux élections des chambres d'agriculture sont connus depuis hier soir et ils affaiblissent les syndicats FNSEA EJA, les syndicats dominants depuis près de 80 ans. Alors, ils contrôlent encore 80% des départements, mais dans 14 d'entre eux, le syndicat Coordination Rurale signe une percée. La Confédération Paysanne, classée à gauche, elle aussi progresse. Bonjour Marion Ferrer.
Bonjour.
Concrètement, qu'est-ce que ça va changer ?
La vision des projets agricoles, tout d'abord, puisque ce sont notamment les chambres qui financent, portent les projets. On le sait, la Coordination Rurale, tout comme la FNSEA, prône moins de normes, mais sa méthode est plus radicale. Par exemple, dans le Lot-et-Garonne, dirigé par la CR depuis 2001, le barrage de Caussade a été construit par la Chambre, malgré les interdictions de la préfecture. Passage en force, donc, un projet illégal mais légitime, explique depuis le syndicat. La CR qui creuse aussi son sillon dans des territoires jusqu'ici favorables à la FNSEA et au JA, comme trois départements du centre, terre de grande culture. Mais pour autant, l'alliance majoritaire relativise, assure que ce n'est pas un vote d'adhésion, mais plutôt de colère dans des territoires en grande souffrance. Du côté de la Confédération Paysanne, qui chapeaute désormais trois chambres et défend la culture biologique, on se réjouit de voir les cartes se rebattre. Le gouvernement n'a plus le choix que de tous nous respecter, enfin, nous dit-on.
Marion Ferrer, nous vous avons parlé en début de semaine, ici même, de l'opération de lobbying menée par le groupe Nestlé auprès de l'Élysée et de Matignon pour garder l'autorisation de commercialisation d'eau en bouteille non conforme. Réponse aujourd'hui du groupe Nestlé, toutes nos eaux sont pures à la source, réagit sa directrice générale. Nous n'avons jamais fait pression sur aucun décideur public, dit-elle. Le gouvernement temporise sur l'obligation pour les auto-entrepreneurs de payer la TVA à partir de 25 000 euros de chiffre d'affaires annuel. La mesure est suspendue. Une concertation a débuté ce matin. Ma méthode, c'est que chaque fois qu'on se trompe, il faut le dire, s'est expliqué ce matin François Bayrou, le Premier ministre, qui sur un autre sujet, celui du droit du sol, on vous retrouve Julien Nenny, sur ce sujet, François Bayrou a décidé de prendre la roue de son ministre de la Justice, Gérald Darmanin, voire même de le dépasser.
Oui, moins de deux semaines après la polémique sur le sentiment de submersion migratoire, François Bayrou a lancé une autre piste ce matin, c'était sur RMC.
Moi, je crois que ce débat public est trop étroit et qu'il faut un débat public approfondi et beaucoup plus large que ça. Vous voyez bien ce qui fermente depuis des années. Ce qui fermente, c'est qu'est-ce que c'est qu'être français ? C'est toute la France qui se pose cette question.
Toute la France, chacun jugera, hein, mais ses ministres de l'Intérieur et de la Justice, en tout cas oui, dès hier soir à l'Assemblée, Gérald Darmanin a apporté sa contribution à ce débat sur le droit du sol.
Le droit du sol ne me paraît pas être désormais quelque chose de suffisant pour s'assurer que l'ensemble des personnes qui viennent sur notre sol et qui demandent la nationalité le font pour des bonnes raisons. Donc oui, moi je suis favorable au débat national sur le droit du sol, mais ça doit être réformé dans la Constitution et je pense que c'est au peuple français de le trancher.
Un référendum sur le droit du sol, un débat public sur la nationalité française, ça ne vous rappelle rien ? En 2009, le président Nicolas Sarkozy et son ministre Éric Besson avaient lancé une grande consultation sur l'identité nationale. C'était aussi une promesse du candidat Sarkozy deux ans avant, qu'il avait aidé à siphonner l'électorat de Jean-Marie Le Pen. Rien n'est pire que de faire de l'identité nationale un sujet d'affrontement politique, avait alors réagi un autre candidat. Devinez son nom, un certain François Bayrou. 16 ans plus tard, il est devenu Premier ministre et a visiblement changé d'avis. Alors, pas de précision à ce stade sur les modalités de ce grand débat public, mais l'entourage de François Bayrou assume de lire les sondages dans lesquels une partie de l'électorat de gauche ne rejette pas une reprise en main de la politique migratoire.
Merci Julien Nenny. Vous parliez de Bruno Retailleau. Il a fait des annonces ce matin sur la lutte contre l'immigration illégale. Il dit notamment vouloir créer une cellule d'échange de renseignements sur le trafic des migrants, cellule qui intégrerait notamment le ministère des armées. La ministre de l'Éducation nationale, elle a esquissé ce matin une feuille de route pour l'intelligence artificielle à l'école. Les questions sont nombreuses. Faut-il laisser les élèves s'en servir ? Quitte à ce que l'IA fasse leurs devoirs et avec quel contrôle ? Eh bien, un document est en cours d'élaboration, dit Elisabeth Borne. Il sera diffusé à l'ensemble des enseignants et élèves au printemps.
L'intelligence artificielle, c'est une révolution en marche. Nos lycéens et nos étudiants n'attendent pas. La quasi-totalité d'entre eux utilisent déjà l'IA comme un grand nombre de collégiens. En revanche, moins de 20% de nos professeurs s'en saisissent régulièrement dans leur pratique professionnelle. Cette asymétrie doit nous alerter. Nous avons donc un défi immense devant nous. Donner les moyens aux professeurs de prendre en main ces technologies, non pas pour les remplacer, mais pour les renforcer dans leur mission essentielle. Elle doit être un levier pour nos professeurs, un atout pour nos élèves, un moteur pour notre pays.
Elisabeth Borne au micro de Juliette Gloria. Alors qu'en pensent les spécialistes de l'IA? Stéphane Jourdain a posé la question ce matin à Yann Lequin, l'un des pères de l'intelligence artificielle. Il dirige le laboratoire de recherche en IA du groupe Meta. Pour lui, l'orthographe et la grammaire à l'école vont perdre en importance.
De même que dans les années 70, on a appris aux écoliers à utiliser les calculettes. Avant, on leur apprenait à utiliser les règles à calculer. Bon, après, c'était les calculettes électroniques. Et puis ensuite, les ordinateurs, etc., les logiciels. De même que l'existence des calculatrices a diminué l'importance du calcul mental à l'école. L'utilisation des chatbots va diminuer l'importance de l'orthographe. On peut faire des fautes d'orthographe, on est corrigé par le système. Mais au-delà de ça aussi, le style, le vocabulaire, ça va améliorer un petit peu en fait, la manipulation du langage par les gens.
Yann Lequin à Paris en ce moment pour le sommet mondial sur l'intelligence artificielle qui a débuté hier. Mais en parallèle, il y a un autre sommet organisé par le député européen écologiste David Cormann. Sommet qui réunit des intervenants spécialistes du sujet pour pointer cette fois des risques liés au développement de l'IA et appeler Rémi Brancato à une meilleure régulation en Europe.
De ses effets sur notre démocratie aux dégâts causés à l'environnement, c'est une journée qui balaye les périls générés par l'IA. Le Congolais David Maenda Kitoko pointe l'exploitation des minerais dans son pays qui génère des millions de morts pour des usages numériques à questionner, dit-il.
Pourquoi est-ce qu'il y a des lois qui permettent aux gens de fabriquer des gourdes connectées ou des slips connectés pour vous dire à quel moment il faut aller se bronzer?
C'est Thierry Breton, l'ancien commissaire européen, qui a introduit la journée. Il défend sa loi européenne sur l'intelligence artificielle, l'AI Act, critiquée, mais qui interdit certains usages, comme la notation sociale des citoyens.
J'entends dire encore, ah non mais c'est le thème qu'en Europe on régule et qu'aux États-Unis on innove. Mais l'AI Act, les deux premiers chapitres seulement, ils sont rentrés en vigueur, vous savez quand? Il y a 5 jours. J'espère que tous ceux qui sont en charge maintenant des responsabilités vont défendre ça comme étant l'un de nos trésors démocratiques.
Ce besoin de régulation, c'est ce que défend l'eurodéputé David Cormann qui organise l'événement.
Je crois qu'oui, il y a une forme de privatisation tech de l'enjeu du numérique. Et ce qui me gêne dans le sommet tel qu'il a été conçu par l'Élysée, c'est qu'en fait, on laisse faire les acteurs économiques et industriels de l'IA.
Pour lui, l'annonce ce matin de l'installation prochaine en France d'un énorme data center émirati est symptomatique. Ses conséquences sociales, environnementales ne sont pas débattues.
Rémi Brancato, vendredi dernier, ici même dans le rendez-vous de la médiatrice des antennes de Radio France. Plusieurs d'entre vous nous ont écrit pour nous dire qu'ils souhaitaient avoir davantage d'informations au sujet du procès qui se déroule en ce moment, procès du présumé financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Eh bien, nous vous avons entendu. Bonjour Charlotte Piret.
Bonjour.
C'est vous qui suivez ce procès qui en est à sa 5e semaine. La 5e semaine est en train de s'achever. Vous allez donc venir régulièrement dans ce 13-14 pour approfondir le traitement de ce procès. On arrive précisément, Charlotte, bientôt au bout de la séquence avec Nicolas Sarkozy. Cette semaine, il a notamment été question de ce qui est dans l'accusation, ces millions d'euros qui seraient venus de Libye vers la France. Est-ce qu'on sait combien d'argent déjà?
Non. Et malgré 10 ans d'enquête, les juges d'instruction n'ont pas pu déterminer le montant exact de ces versements supposément venus de Libye. Alors on parle de dizaines de millions d'euros, voire même de centaines, 400 millions d'euros selon l'intermédiaire Ziad Takieddine qui a, il faut le dire, beaucoup changé de version au cours de l'instruction. Et puis il faut également noter qu'il n'y a pas de traces tangibles de cet argent dans les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy.
Et ça, c'est l'argument numéro 1 de défense de l'ancien chef de l'État.
C'est ce qu'il répète en boucle depuis le tout premier jour du procès. Il y a eu cette phrase à l'ouverture, vous ne trouverez jamais un centime d'argent libyen dans ma campagne. Cette semaine, confronté aux déclarations de Ziad Takieddine, encore lui, qui affirme être venu au ministère de l'Intérieur, puisque c'était le poste de Nicolas Sarkozy avant la présidentielle, lui déposer des valises pleines de billets à 3 reprises, 4 millions d'euros au total. Nicolas Sarkozy a presque explosé à la barre. Le ministère de l'Intérieur, c'est l'endroit le plus gardé de France. Mes propres enfants étaient contrôlés. Inconcevable donc, selon lui, que Ziad Takieddine ait pu entrer avec des valises de cash.
Mais on a quand même des traces de cet argent, l'argent se promène dans ce dossier.
Oui, plus que des traces même, si on reprend Ziad Takieddine, qui est aussi jugé dans ce procès, mais en son absence car en fuite, il a été arrêté à l'aéroport du Bourget en provenance de Libye, avec dans ses bagages 1,5 million d'euros en liquide. Il y a aussi ce qui a fait l'objet d'heures d'interrogatoire hier à l'audience, ce virement de 440 000 euros, là encore de l'argent libyen, versé sur le compte aux Bahamas d'un proche de Nicolas Sarkozy, Thierry Gobert, pour financer les travaux d'une maison en Colombie. Voilà en tout cas pour la version qu'il a donnée hier à la barre. Version pour le moins peu convaincante, car outre son caractère un peu rocambolesque, on peut le dire, ce virement, et c'est ce qu'a rappelé la présidente à l'audience, intervient une semaine après l'annotation dans l'agenda de son bénéficiaire, campagne NS. NS probablement pour Nicolas Sarkozy.
Merci Charlotte Piré. Le procès reprend lundi, c'est ça ?
Alors, le procès a lieu 3 après-midi par semaine. Hein, on l'a dit hier, vous avez bien écouté. On l'a dit, pardon, la semaine dernière, vous avez bien écouté. Audience les lundi, mercredi et jeudi après-midi.
Je vous dis donc à la semaine prochaine, Charlotte Piré.
Bonjour, c'est Violette d'Orange. Je vous fais vivre mon Vendée Globe sur France Inter.
Voilà 3 mois qu'elle tient son journal de bord sur l'antenne de France Inter. Dans ce 13-14, Violette d'Orange termine, boucle son tour du monde à la voile, son Vendée Globe. Et elle nous envoie donc aujourd'hui, avant son arrivée dimanche ou lundi matin, cette dernière note vocale.
Hello France Inter, c'est Violette sur le tour du monde. Et maintenant, sur la fin du tour du monde. Je suis à 2 jours de l'arrivée au large du golfe de Gascogne. Ces derniers jours, la stratégie était bien compliquée parce que la météo était très instable. J'hésitais entre une stratégie qui allait faire soit un petit tour en Irlande ou alors un petit tour au Cap Finistère en Espagne. Heureusement, les fichiers météo ont fini par se mettre d'accord, ce qui m'a permis de prendre une route beaucoup plus raisonnable au milieu du golfe de Gascogne. Là, ce matin, je viens de faire mon dernier virement de bord normalement. Et maintenant, je me dirige tout droit vers les Sables d'Olonne. Alors après la manœuvre où j'ai matossé mes 300 kg de voile et de matériel, et après avoir réglé mes voiles, je me suis posée sur le pont pour souffler 5 minutes. J'avais devant moi un lever de soleil magnifique et je me suis dit, mince alors, plus que deux. Allez, à bientôt.
À bientôt Violette, à très bientôt. Matosser, ça veut dire déplacer le matériel à bord. Ça demande évidemment beaucoup de muscles, beaucoup d'efforts. Si Violette d'Orange arrive dans la nuit de dimanche à lundi, nous serons en direct dans ce 13-14 lundi pour vous faire vivre tout cela en direct. Elle aura ensuite du temps pour lire ou pour regarder des séries. Une prescription dans ce 13-14. Comment le roman de la première autrice française de New Romance va être adapté sur petit écran. Elle s'appelle Émilie Blaine, elle publiait il y a 10 ans sous pseudo Diriou, c'est une ancienne employée de la SNCF, originaire de Saint-Brieuc en Bretagne. Elle a connu un succès colossal en librairie et aujourd'hui son ouvrage est adapté en série par Julien Carpentier et diffusé sur Prime Video. Mais depuis MeToo est passé par là, alors elle a un peu revu son scénario, Fanny Imbert.
Diriou, c'est tous les ingrédients d'une comédie romantique bien sucrée, réunie. Kathleen est une jeune femme secrète qui travaille à la réception d'un hôtel de luxe.
C'est pas pour moi le mariage.
Et qui tombe amoureuse, bien entendu, d'un riche et célèbre client.
Je pense qu'à ce niveau de proximité, vous pouvez m'appeler Alex.
C'est un véritable succès en librairie il y a 10 ans, sauf qu'entre-temps, les codes de l'amour ont bien changé, remarque Emily Blaine, l'autrice.
Quand j'ai relu certains passages, j'ai dit, oh là là, pourquoi t'as écrit ça ? MeToo est passé par là aussi, donc on peut pas non plus faire sans. Donc non, maintenant, sur le consentement, je suis devenue hyper vigilante qu'il y a un accord verbal des deux protagonistes avant de passer à l'acte.
Adapter son œuvre en série, c'est donc le moyen de la mettre au goût du jour. Réseaux sociaux, applications de rencontres, couples gays et bien sûr, on retravaille les personnages masculins.
Dans la série, il est un peu plus causant. Dans le livre, il est très dominant, ce qui maintenant serait insupportable en fait. On dirait, mais quel goujat, c'est un red flag ambulant, voilà. Enfin, évidemment qu'il faut le faire évoluer et le faire rentrer dans le monde moderne, cet homme-là.
L'amoureux moderne est donc plus sensible et il sait communiquer. Véritable baromètre de nos manières d'aimer, la romance reste l'un des rares secteurs en croissance dans le milieu de l'édition.
Dear You, signé Émilie Blaine, 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac. Puis à partir de 13h30, réduire la circulation en ville de 50 à 30 km/h. De plus en plus de communes font ce choix, petites ou grandes d'ailleurs. Qu'en pensez-vous ? Venez partager votre expérience de la route avec nous. 01 45 24 7000. 13h45, notre feuilleton, une ancienne syndicaliste devenue préfète, est avec nous depuis lundi. Qu'est-ce que ça donne ? Nous sommes avec Marilyn Poulain en Alsace. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Jean-Baptiste René du journal L'Équipe et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Jean-Baptiste, vous nous emmenez sur la neige. Enfin, s'il y en a, en fait.
Oui, je vais enfiler ma tenue de skieur de fond pour vous parler d'une institution locale menacée par le manque de neige, effectivement.
Ça se passe dans le Jura. Et avec vous, Frédéric, une comédienne.
Elle est aussi autrice, elle s'appelle Rachel Arditi, demi-sœur de Pierre Arditi. On peut la voir actuellement à la Scala à Paris. Et avec elle, nous écouterons un tube disco de 1982, « Can't take my eyes off you ». Traduction, je ne peux pas détacher mon regard de toi, Jérôme.
Oui, c'est vrai, j'avais traduit. Merci Frédéric pour cette traduction et pour le reste. À tout à l'heure.
Enfin, au livre de poche, le roman de Sorge Chalandon, L'Enragé. 1934, 56 gamins d'une colonie pénitentiaire se révoltent et s'enfuient. Tous seront capturés, sauf un. L'auteur imagine le destin de cet enfant, un fauve né sans amour, un enragé. L'Enragé de Sorge Chalandon, un roman déchirant au livre de poche.
France Inter, partenaire de La Pampa, un film d'Antoine Chevrolier. Willy et Jojo sont inséparables et chassent l'ennui dans leur village en rêvant de partir ailleurs.
En tout cas, après tout ça, prends-moi un transport de ce bled. Je te jure qu'on bouge d'ici.
Mais un soir, Willy découvre le secret de Jojo et leur monde vole en éclats.
S'il te plaît, je voudrais aller à Bayeux.
La Pampa, un film bouleversant avec Saïd El Alami, Amaury Fouché, Damien Bonnard et Artus. Actuellement au cinéma, un film France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Vita Citral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
C'est une journée plus perturbée.
Oui, on a des pluies de l'Aquitaine jusqu'au nord-ouest, pluie et neige mêlée parfois sur l'est de la Bretagne et la Normandie, un peu de neige seule sur les hauteurs, de la Côte d'Azur vers le Languedoc et le sud du Massif central et sur l'est de la Corse, là aussi des pluies s'installent, elles se renforcent sur les Cévennes où il neige dès 1200 mètres. C'est très nuageux de Midi-Pyrénées au nord de la Seine, mais on a des éclaircies des Alpes vers le nord-est et sur le Roussillon. Température toujours trop juste du nord-ouest aux frontières du nord, 3 à 6 degrés, mais 9 à 16 ailleurs. Et puis, cette nuit et demain, un peu de neige possible sur le nord-ouest et l'activité va se renforcer sur un quart sud-est avec des pluies soutenues en Méditerranée, de la neige à basse altitude en grosse quantité hein, sur le sud du Massif central. Oui. Aveyron, Lozère, Ardèche et Haute-Loire sont en vigilance orange à partir de minuit.
Donc attention si vous circulez dans ces départements. Merci Elodie Calac, Météo France.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Fontenay-aux-Roses, dans les Hauts-de-Seine, a été la première. C'était il y a 20 ans, la première et longtemps la seule. Lorient et Grenoble ont rejoint il y a 10 ans. Mais depuis quelques mois, le nombre de communes qui limitent la vitesse à 30 km/h grossit. Toulouse, il y a un an par exemple, est passé de 50 à 30. Mais il y a aussi des villes de plus petite taille, comme Chauvet, en Loire-Atlantique, 3000 habitants, ou Loupian, 2000 habitants, dans l'Hérault, tout près de 7. Alors pourquoi ce mouvement? Qu'est-ce qui a changé dans notre manière de nous déplacer? Dans les grandes agglomérations, comme dans les plus petites communes d'ailleurs, a-t-on vraiment renoncé à la vitesse? Venez partager votre expérience de la route avec nous, nous dire ce que vous en pensez. 01 45 24 7000. Je vous présente nos deux invités. Sophie Santin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes depuis quelques mois la déléguée générale de l'association Prévention Routière qui milite pour la généralisation de ce passage aux 30 km/h. Vous nous direz pourquoi. Avec nous en ligne également, Patrice Donati, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le maire écologiste de Vendeuvre-les-Nancy, 30 000 habitants. Votre ville va passer aux 30 km/h dans les prochaines semaines. 01 45 24 7000, c'est le numéro qu'a composé Michel. Bonjour Michel.
Bonjour.
Vous nous appelez de Paris, où l'on circule à 30 km/h en voiture.
Voilà.
Ça vous convient ?
Écoutez, je voulais savoir si ça s'appliquait aux bus. Parce qu'à Paris, la vitesse des bus est passée de 15 km/h à 8 km/h en 20 ans. Et notamment à cause de la politique du tout vélo. Et du coup, les bus qui sont le seul moyen de locomotion pour les personnes à mobilité réduite ou qui ont des poussettes, qui peuvent pas faire autre chose, eh bien, sont encore retardés si cette limite s'applique à eux. Donc, c'était le sens de ma question.
Vous circulez comment, vous, Michel ?
Bah, je circule en métro, j'ai la chance de pouvoir bouger, sauf quand je me casse le pied. Et voilà, j'évite la voiture à Paris, de toute façon, c'est plus possible. Mais voilà, l'idée, c'est que, en gros, on privilégie, à Paris, en tout cas, je parle, les gens qui peuvent tout faire, et qui peuvent notamment pédaler, donc ils sont super formes, et les vrais défavorisés, On les bloque constamment, ils peuvent pas prendre le bus, ils peuvent prendre que le bus, et les bus voilà, sont toujours oubliés.
Quoi. Merci Michel pour ce témoignage. Patrice Donati, est-ce qu'il y a dans votre réflexion l'idée de favoriser aussi les transports en commun dans le passage à 30 km/h pour rebondir sur ce que nous dit Michel ?
Oui, absolument, et sans hésitation, parce que ce qui gère la vitesse commerciale des véhicules, c'est le transport en commun, c'est de savoir s'ils ont un site propre ou pas. Lorsqu'un véhicule de transport en commun est mélangé à la circulation automobile, en règle générale, sa vitesse commerciale est très faible, de l'ordre de 18 km/h. Lorsqu'ils sont en site propre, là, ça nous permet d'accroître cette vitesse commerciale.
Mais est-ce qu'il va y avoir un changement ? Est-ce qu'il va y avoir un changement ? Il n'y aura pas de changement pour les bus chez vous à Vendeuvre-les-Nancy en passant à 30
km/h ? Même pour les voitures, alors je ne parle pas de la nuit, hein, mais en journée, très clairement, le fait de mettre 30 km/h, de limiter la vitesse à 30 km/h en moyenne, hein, on s'entend, hein, on ne va pas mettre un agent derrière chaque véhicule pour lui mettre un PV, etc. Mais simplement le fait de passer de 50 à 30 km/h, du fait qu'il y a des embouteillages et tout ça, ça ne change rien. Simplement, on rend la circulation plus fluide et en conséquence, le gain de temps est pratiquement, ou la perte de temps, excusez-moi, est tout à fait mineur. C'est pas ça qui est important. Pour les bus, ce qui est important, c'est d'avoir des sites propres.
Et de ne pas être mélangé avec la circulation des autres véhicules. Vous nous direz pourquoi vous faites ce choix de passer à 30 dans un instant, Patrice Donati. Je voudrais d'abord que vous nous expliquiez, Sophie Saintin, comment les communes le font. C'est-à-dire, elles font ce qu'elles veulent, elles décident de passer de 50 à 30 sur toute ou partie de leur voirie, c'est leur compétence ?
Oui, alors c'est la compétence des communes, en effet, elles peuvent organiser la vitesse, donc c'est 50 la règle, mais elles peuvent adapter. Aujourd'hui, il y a des zones de rencontre avec le 20, le 30, des adaptations, et donc oui, c'est possible. Et elles peuvent passer à 30, à généraliser à 30, pour ça il faut installer un panneau 30 km/h sous le panneau d'entrée de ville pour bien préciser que c'est 30 sur toute la commune, ce qui rend la règle lisible. Tout à l'heure vous avez dit, est-ce qu'on renonce à la vitesse ?
Oui.
Mais est-ce qu'on renonce à la vitesse avec le 30 km/h ? On fait plutôt le choix d'une meilleure cohabitation et on fait le choix de la sécurité routière.
En roulant moins vite.
Exactement.
Voilà, c'est factuel. Est-ce que ça concerne tous les axes ? Je suis maire, est-ce que sur la route nationale qui traverse ma commune, je peux décider qu'on roule à 30 ?
Alors non, là, il va falloir se mettre en concertation avec l'État puisque la compétence est partagée. Les départementales, ce sont les départements.
Et sur les départementales non plus, je peux pas le faire.
Il faudra concerter et dialoguer avec l'opérateur et notamment avec le département. Mais ça se fait, hein. Vous avez cité des communes, notamment Lorient et Toulouse, qui sont des grandes communes, qui sont, je le rappelle, l'association Prévention Routière a un label qui s'appelle le label Ville Prudente, qui défend les communes qui s'engagent pour la sécurité et la prévention routière. Et ces deux communes font partie, entre autres, les 530 du label Ville Prudente.
Et combien de communes sont passées à 30 ? Vous le savez ça,
oui, alors,
Sophie Saintin ?
Le site ville30.org recense les communes qui généralisent le 30 km/h et on est passé à 443 recensées, donc c'est sûrement beaucoup plus, puisque vous énonciez tout à l'heure qu'il y avait des petites communes qui rejoignaient le mouvement et ça c'est très important. Ce qu'on voit surtout, c'est une évolution très importante entre 2019 et 2025.
Et donc une accélération
ces
6 dernières années. Patrice Donati, ça sera 30 chez vous sur tous les axes. J'ai parlé national et départemental, parce que je crois qu'il y avait déjà le 30 dans certains quartiers de votre commune.
Oui, tout à fait. Donc, avant, c'était marqué à l'entrée de la ville 50 km/h. Demain, ce sera marqué 30 km/h. Mais bien évidemment, sur certains axes, traversant, tout droit, etc., il n'y a strictement aucune bonne raison de ramener la vitesse à 30 km/h. On la laisse à 50 km/h, mais cette fois-ci, ce sera marqué. Là, vous avez le droit de rouler à 50 km/h.
Ce sera l'exception, en quelque sorte.
Oui, tout à fait. Et pour tout ce qui est quartier riverain, vous voyez, là où il y a des maisons, où les enfants jouent dans la rue, etc., des cul-de-sac, etc., là, on se met à 20 km/h. C'est une zone 20, c'est une zone partagée où il n'y a plus de trottoir, plus de ralentisseurs, plus de passages piétons. Tout le monde roule ensemble. Mais ça, c'est l'exception, hein, dans des quartiers apaisés, entre guillemets. Donc, par contre, ce sera sur toute la ville 30 km/h. Ça a pas mal d'intérêt. Le premier, évidemment, c'est la baisse des accidents graves. C'est important, oui. C'est prouvé, hein. Le deuxième, et ça, c'est important, dans toutes les villes de France, aujourd'hui, on essaye d'avoir différents modes de déplacement. Le vélo, la trottinette, la voiture, les transports en commun. En se mettant à 30 km/h, ça veut dire que les différents modes de déplacement vont rouler pratiquement à la même vitesse. Mmh. C'est beaucoup plus facile pour le code de la route. Aujourd'hui, j'ai un code de la route qui est fait pour les voitures. Et vous voyez d'ailleurs, les vélos trichent un peu. Les feux rouges, je les respecte pas trop, etc. Parce que le code de la route n'est pas fait pour les vélos. Demain, lorsqu'on se met à 30 km/h, le code de la route devient adapté à tout le monde. Donc, on aura un meilleur respect. Et puis, on voit aussi une évolution des conducteurs. La courtoisie est aujourd'hui de règle au volant. On s'arrête lorsque un piéton est sur un passage piéton et qu'il est en train de traverser, ce qui n'était pas le cas avant, les voitures forcées. Aujourd'hui, de plus en plus, je pense que quand on utilise une voiture ou un vélo, etc., c'est un mode de déplacement. Ce n'est plus un engin de course, quelque chose de passionnant, etc. La mentalité a changé.
D'un mot, Patrice Donati, est-ce que vous avez consulté vos concitoyens ou pas ?
Bien sûr, nos concitoyens, d'ailleurs, ce qu'ils
ont voté, comment ça s'est passé ?
Non, on n'a pas fait de vote. On fait ce qu'on appelle, nous, chez nous, des conseils de quartier. On en parle, on échange. La crainte des habitants, c'est « Monsieur le maire, vous allez mettre des PV à tout le monde ». Mais non, c'est même pas la peine. L'expérience nous a montré, parce que moi, je suis ingénieur de formation, donc je fais des mesures. Et lorsque je mesure à 50 km/h et à 30 km/h, je m'aperçois, mais c'est systématique, quand je mets une rue à 30 km/h, je gagne en moyenne 14 km/h. Je dis bien en moyenne. Donc, j'ai gagné parce que.
Donc, ça fonctionne. Il n'y a pas besoin de mettre d'amende. C'est ce que vous nous dites.
Non,
Christophe
non,
nous appelle de Quiberon, département du Morbihan. Bonjour, Christophe.
Oui, bonjour, monsieur.
Nous vous écoutons.
Voilà, je vous appelais. J'étais étonné juste à la fin de l'intervenant.
Oui.
Parce que, justement, moi, mon problème, c'est que Quiberon est à 30 km/h. Personne ne respecte les limitations.
D'accord.
Et il n'y a aucun radar dans la ville. Il n'y a même pas des panneaux indiquant la vitesse où vous roulez. Il y en a dans d'autres villes où ça devient rouge, où vous dépassez les 30. Là, il n'y a rien à Quiberon. Personne ne respecte. Et l'été, bah, je ne vous raconte même pas. Moi, je fais tout en vélo en plus. Et avant, je ne portais pas de casque. Et ben maintenant, je porte un casque.
Merci Christophe pour ce témoignage. Manifestement, vous, Patrice Donati, vous pensez que tout le monde va respecter ?
Alors, j'ai pas dit tout à fait ça. Lorsque je mets à 30 km/h, je vois des voitures qui roulent à 20 km/h. La grande majorité vont rouler entre 30 et 50 km/h, alors qu'avant, ils roulaient entre 40 et 60 km/h. Donc, je gagne en moyenne environ 14 km/h. Ça, c'est mesuré, maintes fois éprouvé. Par contre, j'ai, comme partout, malheureusement, des personnes excessives qui vont rouler à 100 km/h. Donc, ceux-là, il n'y a pas de problème. Là, il faut mettre des PV. Et puis, sur ma ville, j'ai mis ce qu'on appelle des radars pédagogiques. C'est-à-dire, j'indique aux gens, vous voyez, vous êtes en train de rouler à 40 km/h, essayez de ralentir un peu.
C'est les radars dont parlait Christophe à l'instant. Sophie Saintin, sur l'accidentologie, on a des études qui nous disent, dans les villes où on est passé de 50 à 30, effectivement, il y a moins d'accidents, ou alors il y a toujours autant d'accidents, mais vu qu'on roule moins vite, ils sont moins graves.
Non, alors, ce que disait M. Donati, c'est très important, c'est qu'en fait, ce qu'on voit comme différence sur la vitesse, c'est la vitesse moyenne qui diminue. Donc ça, c'est essentiel parce que c'est ce qui va montrer que les études européennes qui ont étudié les généralisations aux 30 km/h sur plusieurs villes d'Europe montrent qu'il y a une baisse en moyenne de 30% des accidents. Donc ils sont en effet moins graves, il y a moins de blessés, et notamment sur les usagers vulnérables.
Quand on passe de 50 à 30, il y a moins 30% d'accidents.
En moyenne, oui, tout à fait.
C'est une étude européenne.
C'est une étude européenne. Mmh. C'est une moyenne, mais c'est à peu près la moyenne. Et surtout, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les chances de survie d'un piéton, si vous le percutez à 30 km/h, c'est 90%. En fait, vous avez plus de chances de sauver un enfant qui va traverser pour ramasser un ballon. C'est ça qu'il faut avoir en tête. À 50 km/h, cet enfant, il n'aura plus que 20% de chances de survie. Et en fait, c'est ce qu'il faut avoir en tête quand on parle de ce sujet-là.
Alors, ça permet, c'est ce que vous nous dites, Patrice Donati, à Vendeuvre-les-Nancy, au mode de transport, de mieux finalement cohabiter. Ça veut dire que vous avez augmenté drastiquement le nombre de pistes cyclables dans votre commune ? Peut-être que vous avez anticipé que les gens allaient prendre davantage le vélo ?
Oui, alors bon, il faut déjà vous dire que Vendeuve, qui est une ville de 30 000 habitants, est une ville de banlieue. Donc cette action-là, nous la menons avec la ville de Nancy et la métropole du Grand Nancy. Hein. Ce n'est pas si Vendeuve tout seul décidait d'être.
C'est eux qui financent, c'est ce que vous me dites ?
Oui, voilà. Donc on a fait ce qu'on appelle des continuités. Hein, là où la ville de Nancy est restée à 50 km/h, la ville de Vendeuve est restée à 50 km/h. Là où la ville de Nancy passe à 30 km/h, nous faisons la même chose.
D'accord.
Donc, avec les 20 villes de l'agglomération, on a échangé entre nous et évidemment on a accordé nos violons pour qu'il y ait de la cohérence. L'autre chose très importante, c'est que ça nous permet de mieux partager l'espace public. Donc effectivement, là où c'est nécessaire, nous faisons des itinéraires cyclables. Notre part modale pour ce qui concerne le vélo était de quelques pourcents. Les gens avaient renoncé à faire du vélo, alors qu'on est quand même une ville qui est accidentée, mais plate à 80%. Et puis le fait qu'il y ait le vélo électrique aujourd'hui a changé beaucoup de choses, etc. Et donc, en conséquence, ça nous permet de créer des... Comme on va moins vite, à partir de ce moment-là, on est plus précis dans la conduite. On a besoin de voiries moins larges. Ça nous permet non seulement de faire des itinéraires cyclables, mais également de végétaliser nos rues, de rendre la voie...
Je suis obligé de vous interrompre, Patrice Donati. On a compris tout l'intérêt. J'ai une dernière question et je voudrais vous la soumettre, Sophie Saintin. C'est Luc à Grenoble qui nous dit « ça ne marche pas sur la fluidité du trafic. Il y a énormément d'embouteillages. » Il nous appelle de Grenoble, il nous dit « c'est ce qu'il constate dans sa ville. » Est-ce qu'il y a eu des études là-dessus sur « on roule moins vite, plus d'embouteillages ?»
Non, en général, la baisse de la vitesse, c'est plutôt un facteur de fluidification du trafic. Mais du coup, je ne connais pas forcément Grenoble, ça à regarder, parce qu'après, il peut y avoir plein de choses. C'est vraiment spécifique, un territoire avec son aménagement.
Merci à tous les deux, en tout cas, d'avoir répondu aujourd'hui aux auditeurs de France Inter. Sophie Saintin, déléguée générale de l'association Prévention Routière, et Patrice Donati, le maire de Vendeuvre-les-Nancy, 13h45 sur Inter. Notre feuilleton, une semaine dans la vie d'une préfète. Marie-Line Poulain, préfète déléguée à l'égalité des chances dans le Bas-Rhin, avec ce parcours singulier. C'est une ancienne militante de la CGT. Elle en a été permanente pendant 10 ans avant de claquer la porte en 2022. Et elle a une grande passion, les jeux de stratégie. Notre reporter Cécile Bideau s'est donc rendue chez elle à Strasbourg pour une après-midi jeu.
Il y a le mode d'emploi, il y a le mode d'emploi.
Oh,
c'est pour ça.
La double étoile.
Si c'était des lettres. S, déjà, ça c'est sûr.
Comme ça, c'est après, un jeu, on dirait.
Après, on est en train de faire une enquête qui s'appelle le tueur au tarot. Et donc, on est un petit groupe là à travailler sur cette enquête. C'est un jeu de déduction, un jeu d'énigmes. Voilà, ça dure toute une après-midi. J'aurais dit un T.
Ouais, mais dis avant, c'est
G. O. R. U. M. C'est important d'avoir ces moments de respiration, ces moments où on sort du réel, parce qu'on est confronté dans nos postes à des réalités qui sont difficiles. Et en effet, le fait de pouvoir avoir des moments de respiration, des moments où on s'évade, c'est fondamental. Moi, j'ai toujours été, depuis que je suis enfant d'ailleurs, passionnée par les jeux de stratégie, les jeux de négociation aussi, comment réfléchir à comment on construit une politique publique, comment on construit un combat syndical, comment on fait bouger des lignes. Ben, tout ça, c'est une question de stratégie et donc forcément, l'un alimente l'autre. Donc il y a un côté intellectuel, je pense, qui se croise.
Vous diriez que vous êtes stratège dans votre vie professionnelle ?
J'essaye de l'être, en tout cas, oui, je pense, oui. La question de la stratégie, c'est pas forcément quelque chose de péjoratif, hein. Je pense que c'est nécessaire pour construire quelque chose, c'est-à-dire réfléchir à comment on va atteindre un objectif, comment on va travailler sur un plan d'action. Alors, on est dans la prison, il y a des choses.
Rabbit Star, c'est-à-dire, ça c'est son nom de forum.
Ouais.
Il y a clairement un truc derrière.
Ouais, alors attends, je regarde quand même, c'est rien d'autre dans la cellule. Ah, regardez, voilà. Ah.
Vous aimez bien gagner ?
Oui, j'aime bien gagner, oui, je pense que... Peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le terme que j'utiliserai dans le cadre de mes fonctions de préfète à l'égalité des chances, parce que préfète à l'égalité des chances, ou préfet, lui, ce n'est pas de gagner, c'est d'améliorer la vie des gens. Et ça, il faut aimer les gens, donc il faut avoir envie d'impacter, si je puis dire, d'être utile.
Heureusement qu'on a une équipe, hein. Heureusement qu'on est ensemble. C'est ça.
Alors.
Moi, je m'appelle Sébastien. Alors, moi, je suis comédien dans la vie, voilà. Rien à voir avec l'administration.
Alors, justement, comment ça s'est passé la rencontre avec Marie-Line Poulain ?
par un ami commun. Bon, on a parlé de nos addictions mutuelles aux jeux de société. C'était agréable, c'était pas quelqu'un d'austère. Et... En vrai, je ne le vois pas comme une préfète. Je vois plutôt comme une joueuse que comme une préfète, j'avoue.
Ça fait un an et demi maintenant que vous êtes préfète à l'égalité des chances. Comment vous voyez la suite ?
Je ne peux pas savoir ce que sera demain. On est dépendant, on va dire, du bon vouloir politique aussi, hein, de nos autorités de nomination. Donc moi, j'espère continuer dans ce métier-là.
Qu'est-ce qui pourrait faire que demain, vous quittiez la préfectorale comme vous avez quitté la CGT ?
Je peux dire que je me suis fortement questionnée quand il y a eu la possibilité que le Rassemblement national ait une majorité absolue à l'Assemblée nationale lors des dernières législatives. Ma grand-mère était juive allemande, a survécu à la Shoah. Elle m'a sensibilisée à la question de la discrimination, de l'immigration. Et forcément, pour moi, ce sera la ligne rouge. Et je ne me vois pas, je ne me verrai pas servir un gouvernement d'extrême droite, en effet.
Une semaine dans la vie de Marilyn Poulain, préfète à l'égalité des chances. À retrouver sur le site de France Inter.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France à 13h49. Le vendredi, la France du sport est aujourd'hui avec Jean-Baptiste René du journal L'Équipe. Cette semaine, Jean-Baptiste, vous nous emmenez dans le Jura pour nous parler d'un monument en péril.
Oui, un monument qui fête ses 46 ans cette année, mais qui tremble sur ses bases et crée même la polémique. Alors, quel est cet objet du patrimoine local ? Une course de ski de fond, pardon, la plus grande course de ski de fond de France, selon l'appellation officieuse. Il s'agit bien sûr de la transjurassienne, la transju pour les initiés. La transju, c'est quoi ? Une épreuve de 76 km qui relie le village de Lamoura dans le Jura à Mout dans le Doubs, en passant par Bois-d'Amont ou Chauneuve, autant de lieux emblématiques du ski nordique. Mais ça, c'est dans la théorie, parce que le parcours de l'édition 2025, qui a lieu ce week-end, aura plutôt des airs de grand tourniquet. Les organisateurs ont en effet annoncé que les concurrents devraient parcourir trois fois une même boucle de 13 km au départ de la station des Rousses, avec même des départs échelonnés pour éviter des bouchons sur la piste. Sacrilège pour certains
de ces concurrents
qui ont déjà annoncé qu'ils ne se présenteraient pas sur la ligne, reprochant aux organisateurs de vendre l'âme de la course. Comment peut-on décemment proposer de mettre plus de 2000 skieurs sur une boucle de 13 km, se sont insurgés d'autres fondeurs. Il y a le feu au lac du Jura.
Pourquoi une telle décision ?
C'est tout simple, il n'y a pas assez de neige à cette altitude, c'est-à-dire autour de 1000 mètres. Alors ça ne s'est pas joué à grand-chose. Jusqu'à mi-janvier, l'épreuve aurait pu emprunter le tracé historique qui serpente à travers les villages du Jura. Mais le redoux qui a suivi a endommagé les pistes de liaison, raison pour laquelle les organisateurs se sont rabattus sur ce circuit au bord de la célèbre forêt du Massacre. Pour les responsables de la course, il n'y avait pas d'autre option, notamment parce que plusieurs milliers de personnes, dont 800 venues de l'étranger, avaient déjà réservé leur séjour. Alors, les organisateurs eux-mêmes assurent que c'est un crève-cœur, mais ils ne se voyaient pas annuler ce rendez-vous une deuxième année de suite.
Parce que la transjurassienne a déjà été annulée.
Oui, l'année dernière, mais aussi en 2016, en 2007, en 2001. En fait, depuis sa création, l'épreuve a été supprimée du calendrier 8 fois en raison du manque de neige. Et on peut supposer que la menace sera de plus en plus grande dans les années à venir. Car ce cas n'est qu'une énième illustration de l'impact du changement climatique sur les événements sportifs, qu'il concerne le haut niveau ou la pratique amateur, et sur l'économie des sports d'hiver en général. Chaque année, des stations de moyenne montagne annoncent leur fermeture. Et en 2024, la Cour des comptes avait pointé dans un rapport des stratégies d'adaptation qui n'étaient pas à la hauteur des enjeux. Une seule station avait, au contraire, reçu les félicitations de la Cour des comptes pour s'être déjà projetée vers la fin du ski alpin et avoir commencé à diversifier ses activités. Il s'agit de Métabier, dans le Jura, décidément en première ligne face au changement climatique.
Merci Jean-Baptiste René du journal L'Équipe de C'est la France. Ah, c'est une chanson avec, à votre micro aujourd'hui, Frédéric Pommier, l'autrice et comédienne Rachel Arditi.
Rachel Arditi qu'on peut voir actuellement sur la scène de la Scala à Paris dans Punk, pièce qu'elle a coécrite et qui raconte l'histoire du premier groupe anglais de punk féminin. Mais c'est un autre groupe qu'elle a souhaité que l'on écoute, Boys Town Gang et le tube Can't Take My Eyes Off You.
Quand j'étais petite, j'habitais dans le 18e, sur la butte Montmartre, avec ma mère. Ma sœur et moi, on habitait chez ma mère. Mes parents ne vivaient pas ensemble. Et il y avait un petit hôtel à côté de chez elle, qui s'appelait l'hôtel des Trois Poussins. et qui était tenu par un couple assez marrant. Le père était kabyle, la mère était hollandaise, et ils avaient 4 enfants, dont 3 filles, qui étaient nos babysitters régulières. Et ces filles, c'était mon idéal féminin. Nadia, Dabia et Tassadit, elle s'appelait. Et c'était 3 filles qui étaient en jean ultra moulant, avec des petits talons pointus, des ceintures cloutées. Enfin, c'est les années 80, donc elles sont vraiment dans ce look-là. Elles fument, elles mangent des chewing-gums, donc ils se dégagent d'elles plein d'odeurs comme ça. Et pour moi, c'est hyper, exotique. Et c'est une image de la féminité qui m'attire énormément. Et je suis un jour dans leur chambre, elles occupent toutes les 3 la même chambre, une grande chambre qui est le dernier étage de l'hôtel des parents en fait. Et là, c'est un bordel de soutien-gorge, de bijoux, d'objets qui me semblent être vraiment le summum de la féminité en tout genre, qui sont répandus au sol. Et il y a un tourne-disque orange. Et sur ce tourne-disque, on est en 1982 et il vient de sortir cette chanson. Et elles l'écoutent en dansant et c'est un monde qui s'ouvre quoi.
Cette chanson, Frédéric, est la reprise d'un titre des années 60.
Un titre interprété au départ par le crooner Frankie Valli. Et si cette version disco a autant bouleversé Rachel Arditi quand elle l'a découverte avec ses 3 babysitters, eh bien c'est parce que chez elle, l'ambiance était vraiment très différente, l'ambiance musicale notamment.
J'ai été biberonnée par la musique classique. Ma mère nous endormait avec de la musique, mais elle nous réveillait avec de la musique classique. Et même adolescente et tout ça, j'étais très très décalée par rapport à mes copains et copines qui voyaient en moi une vieille dame, quoi.
Parce que vous écoutiez du classique ?
C'est l'idée que je me faisais de l'idée qu'ils avaient de moi, quoi. En plus, ma mère, qui vivait avec des femmes, et qui était une femme très féministe, qui se démarquait beaucoup des modèles de la féminité telle que moi je la percevais à travers mes copines, les mères de mes copines, d'autres femmes, enfin voilà. Et ça a été une vraie question pour moi, la question de la féminité. Est-ce qu'on est une fille parce qu'on met des robes, qu'on s'habille en rose, qu'on met des talons et du vernis à ongles et du maquillage, voilà.
Ce qui n'était pas le cas de votre mère ?
Pas du tout, absolument pas. Elle était en jean et spartiate et moi j'aurais rêvé qu'elle ressemble à mes Barbies. Mais elle les trouvait monstrueuses. Voilà, et donc il y avait cette chanson dans la chambre de ses filles qui m'ouvre quelque chose de moi-même, donc qui n'est pas de la musique classique, qui est une forme de liberté en fait, voilà. Et d'une visite dans la chambre des babysitters à l'autre, je rêvais que d'une chose, c'était d'entendre à nouveau cette chanson, qu'elle me traverse mon corps comme ça et danser à nouveau dessus. Et c'était énorme pour moi, hein. Cette chanson, c'était une sorte d'interdit et d'idéal interdit, quoi.
Cette chanson, vous la découvrez, vous êtes toute petite. Est-ce qu'elle continue à vous accompagner par la suite ?
Moi, je l'adore. Et c'est marrant parce que je l'ai fait découvrir à mon fils assez récemment, l'année dernière, et il en est fou, il l'adore. Et il danse du début à la fin, il adore cette chanson. Et c'est merveilleux.
Vous dansez avec votre fille sur cette chanson ?
Ouais, je danse vachement avec mes enfants. Et finalement, je leur fais beaucoup plus écouter de variété que de musique classique.
Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off You. C'était donc, pourquoi vous rigolez Frédéric Pommier ? C'est le choix de Rachel Arditi aujourd'hui.
Parce que vous prononcez très bien l'anglais.
Ah ouais.
Rachel Arditi que vous pouvez retrouver au théâtre de la Scala en ce moment dans le spectacle Punk.
Merci Frédéric Pommier pour C'est une chanson. On va garder un peu de Boys Stand Gang pour les remerciements de cette semaine. Merci à Fabrice Desmaz et à Philippe Duclos, à la technique, la rédaction en chef, Cécilia Arbona, Estelle Schmitt, Thibaut Cavaillès et Sébastien Sabiron, assistés de Nicolas Sabat, Rachid Zourdani, Swad Bellani et Sylvain Lesage, notre chargé de programme Claire-Sophie Collet. Nous n'oublions pas les standardistes d'Inter.